France Inter, Léa Salamé, Nicolas Demorand, le 7-10.
Et avec Léa Salamé, nous recevons ce matin un écrivain membre de l'Académie française. Il publie « S'en aller » chez Gallimard en librairie ce jeudi. Vos questions et réactions au 01 45 24 7000 et sur l'application de France Inter. François Sureau, bonjour.
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 Et bienvenue à ce micro. On est heureux de vous recevoir. Ça faisait longtemps que vous n'étiez pas venu dans la matinale. Vous publiez donc « S'en aller », titre
vous
magnifique.
Vous dites ça, mais d'ailleurs, vous êtes bien le seul à le dire, parce que votre machin là, a tellement de réputation que, de temps en temps, mon fils me montre des tweets en disant « Mais ce type, il est encore tous les matins à la matinale d'Inter, alors que ça fait 3 ans que je ne suis pas venu. » Non mais franchement...
Ah bah, c'est la longue traîne, comme on dit. Mais, factuellement, ça faisait longtemps, et on est donc très très heureux. « S'en aller », titre magnifique, je le disais, d'un livre très personnel, même si vous vous y cachez aussi. Un livre de lecteur, où l'on croise Hugo, Breton, Nabokov, mais aussi des figures moins connus, comme l'explorateur Victor Jacquemont ou l'écrivain britannique et voyageur Patrick Lefermort. C'est un livre à la fois mélancolique, mais parfois très drôle, foisonnant, digressif, érudit, dans lequel on apprend 10 choses par page. Qu'est-ce que ce livre, François Sureau? Vos mémoires, un exercice d'admiration, les deux à la fois, ou votre manière de dire au lecteur « Voilà qui je suis, ce que j'aime, ce que j'ai appris en lisant et en voyageant ».
En fait, je crois que c'est aussi une manière de dire « Voilà comment je me suis rassuré ». Bon, je ne vais pas me présenter comme le raté absolu, le type qui est passé d'un métier à un autre, etc. Ce que pourtant je suis, mais au fur et à mesure de ma vie, je me suis rendu compte qu'en réalité, j'avais toujours voulu échapper, d'une certaine manière. Habité par un sentiment d'étrangeté, le fait de n'être jamais tout à fait à ma place à l'endroit où j'étais, que j'avais voulu m'échapper. Et progressivement, j'ai vécu pendant des années dans une espèce de compagnonnage avec des écrivains ou des hommes, pas nécessairement très connus d'ailleurs, qui eux aussi ne s'étaient pas bien sentis là et avaient voulu s'en aller. Et ça vaut pour tous, ça vaut pour les glorieux. Regardez Hugo, c'est le fils du général Hugo, il est membre de la Chambre des Pairs, à l'époque il est royaliste, mais il passe la moitié de son temps à traîner dans les rues de Paris pour parler aux personnes égarées. Et ceci vaut pour énormément. Jacquemont, qui est, vous l'avez dit, qui est un des grands personnages du 19e. Stendhal et Mérimée pensaient que Jacquemont serait le meilleur écrivain du 19e. Et puis... il est oublié. Il n'est pas bien... ça pourrait m'arriver aussi, naturellement. Je l'espère bien. Mais vous allez me porter malheur, en fait.
Mais bien sûr que non. Un mot sur le titre, « S'en aller », ce titre magnifique. On est allé regarder avec Nicolas dans le Grand Robert d'Alain Rey. Et voilà ce qu'écrit Alain Rey de ce verbe. Aller, verbe fondamental, l'un des plus irréguliers de la langue française. Fondamental et irrégulier. On trouvait que cette définition vous allait bien.
Oui, c'est pas mal. C'est vrai que c'est un piège. Je me souviens d'une extraordinaire chanson de Jean-Yann, que je pourrais vous chanter, mais j'éviterai quand même. Enfin, quand même le premier vers, quoi, qui montrait que, en effet, s'en aller était extrêmement dur à conjuguer. Si tu t'en irais, des fois que tu serais plus ma blonde. Vous voyez, si tu t'en irais, c'est quand même, voilà. Et c'est un peu ça, s'en aller, en effet. Il y a un côté irrégulier. En même temps, moi, j'ai pensé surtout en l'écrivant à cette phrase formidable de Saint-John Perse, qui est s'en aller, parole de vivant. Quand Nabokov a été reçu il y a des années de ça chez Pivot, il y a eu, moi j'aime énormément Nabokov, et il y a eu un moment très émouvant où il a parlé avec cette espèce d'accent russe blanc qu'il caractérisait. J'ai toujours envié ceux qui sont restés accrochés comme des huîtres à leur nacre natale. Encore faut-il se sentir bien dans la nacre natale. Et le point commun de tous ces personnages, avec moi d'ailleurs, notre point commun, c'est que nous ne nous sommes jamais sentis accrochés véritablement à la nacre natale.
Claude Lévi-Strauss avait cette phrase fameuse dans Triste Tropique, « Je hais les voyages et les explorateurs ». On pourrait dire que c'est l'inverse pour vous. Vous n'aimez que ça, les voyages et les explorateurs. Vous ouvrez ce livre par cette phrase étrange, « Dis-moi ce que tu quittes, je te dirai qui tu es. » Qui tu es, pardon. Qu'avez-vous quitté?
À mes yeux, en tout cas, à peu près tout sauf l'essentiel. C'est-à-dire à peu près tout ce qui était comme on dit maintenant, ancrage institutionnel, je suis rentré dans l'administration pour laquelle je n'étais aucunement fait, j'ai démissionné du Conseil d'État assez vite, je suis allé voir l'entreprise, ça ne me convenait pas du tout et je suis parti. Je me suis inscrit au barreau, j'étais pas un bon avocat, je me suis fait un nom dans les histoires constitutionnelles, mais j'étais pas un vrai avocat, un grand pénaliste, quelqu'un. Et puis au bout d'un moment, j'en suis parti. Je suis arrivé au Conseil d'État et à la Cour de cassation comme avocat pour plaider des affaires. Je l'ai fait et j'en suis parti. Tous les deux mois, je me demande si je vais pas quitter l'Académie française et je ne le fais pas parce que je m'y trouve bien. Mais néanmoins, cette tendance est là qu'il faut sans arrêt contrebattre. En revanche, ce que je n'ai pas quitté est difficilement dissible à l'écran, mais relève pour moi de l'essentiel.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire
même
d'abord,
si c'est difficilement dissible, essayez.
C'est d'abord là où se joue, à mes yeux en tout cas, la vie de ceux qui n'ont pas d'autre endroit où aller, qui est la littérature. Quand j'étais jeune, en fait, avant d'écrire des livres, je voulais être un écrivain, parce qu'il me semblait que cette condition correspondait à la condition, entre guillemets, du goy errant que je sentais être la mienne. Et être un écrivain, par exemple, je lisais ces recueils extraordinaires, vous vous souvenez, les écrivains par eux-mêmes en collection du Seuil, alors ça me bouleversait, hein. Et alors ça me bouleversait quelles qu'aient été les options politiques ou esthétiques des écrivains en question. Par exemple, sur les éditions du Seuil de Barrès, le livre était fait par Domnac, on voyait simplement des soldats montés à l'assaut en 14 avec un officier devant, et en dessous, la citation de Barrès, se refaire une âme complète. Ou bien dans le Joyce, qui me fascinait également, on voyait, vous savez, Joyce était très pauvre, il faisait des listes de comptes sur des papiers de blanchisserie, millimètre par millimètre, en comptant les sous, etc. Et en face, en regard, il y avait simplement une citation d'Ulysse, « J'ai payé mon dû ». Voilà. Ça ne m'a pas abandonné.
Mais c'est vrai qu'au cœur de ce livre, il y a la phrase de Sandrard que vous aimez beaucoup et que vous citez, « Quand tu aimes, il faut partir ». Et je pense que c'est la ligne directrice de votre vie. Tout le temps, vous avez voulu partir, quitter votre pays, quitter votre ville, vos habitudes, quitter vos meubles également. On sent chez vous une volonté de vous en aller dans les livres, vous le dites à l'instant, dans l'Orient aussi, il y a beaucoup d'Orient dans ce livre, en Inde, en Égypte, dans le désert saoudien de Laurence d'Arabie et de Joseph Kessel, sur la Riviera avec Somerset Maugham. S'en aller aussi dans les monastères, il y a toute une partie du livre à la fin où vous évoquez votre tournée des monastères de France. En vous en allant ainsi, en quittant en permanence, qu'est-ce que vous voulez, à quoi vous voulez échapper ? Au temps présent, à la modernité, au vacarme ? À l'époque, tout simplement, ou c'est autre chose ?
Non, c'est tout à fait autre chose, parce que je pense que j'aurais pas moins ressenti le vacarme, l'époque ou la vulgarité du temps si j'étais né en 1750, en 1850, ou vous voyez, enfin, je veux dire, c'est vraiment un leitmotiv. Non, en réalité, s'en aller pour moi n'est pas fuir, mais essayer de trouver quelque chose, de trouver la confirmation de quelque chose. Depuis que je suis enfant, je crois. Je pense que c'est une singularité qui est partagée par beaucoup de gens. Depuis que je suis enfant, j'ai eu continuellement l'impression que ce monde était en réalité la version imparfaite d'un monde parfait. Une idée un peu platonicienne, une idée de caverne, une idée de tout ce que nous voyons avait son sens ailleurs. Et avait son sens ailleurs, trouvait son sens ailleurs. Il existait un monde dans l'éternité où notre conversation à trois de ce matin prenait un sens que nous-mêmes en ce moment ne sommes pas capables d'imaginer. Et évidemment, le voyage est une sorte d'anticipation de ça. De la même que la vie des moines est une anticipation de ce qu'ils espèrent être l'au-delà de la vie. Et en fait, pour moi, le départ ne vise moins à la fuite de quelque chose qu'au fait de retrouver quelque chose d'essentiel dont j'ai toujours pensé qu'il était là, caché comme une rose impossible dans la nuit, comme dit André Breton à propos de Saint-Cirque.
Mmh. François Sureau, sur l'époque, sur notre siècle, vous écrivez la chose suivante, notre siècle qui dispense sans discontinuer sa propre propagande n'a rien inventé, bien qu'il croie l'inverse, puisqu'il faut y survivre. J'ai appris à en aimer le mouvement, les zombies à écouteurs des rues, les patineurs nocturnes et les sermons des sportifs, les mini à microphone, les femmes voilées, les chiens des mineurs dans les gares, les policiers dans leurs pyjamas de guerre. Puisqu'il faut survivre à l'époque, vous avez appris à en aimer le mouvement. De ce point de vue, est-ce que on pourrait dire que vous êtes un anti-moderne tolérant, débonnaire ?
Oui, c'est ça. Débonnaire. En fait, mon rire, comme disait Nabokov, est un pétillement bonhomme, vous voyez. Et puis ensuite, un anti-moderne, non, je ne sais pas, il y a toute une partie de moi qui aime ça. Il y a toute une partie de moi qui aime cette étrangeté du monde moderne, comme au fond, Apollinaire aimait l'aviation ou Blaise Sandrard l'industrie. Vous voyez, c'est une chose que j'aime. En revanche, les formes de la vie moderne ne m'ont jamais déplu. Les formes de l'imposture moderne, et spécialement de l'imposture politique, elles, quelquefois, me plongent dans des états où la colère, le dispute, a une certaine forme de ravissement esthétique, si vous voulez. Je me dis quand même, j'ouvre le journal officiel, je trouve que ça ressemble au Gorafi.
Ah, le journal officiel. Il y a des pages sur votre fascination du journal officiel, sur la passion de la France pour l'administration. Ça, c'est quelque chose que vous avez toujours, qui vous a toujours fasciné,
C'est fascinant, il y a un livre d'André Breton qui s'appelle « Introduction au discours sur le peu de réalité ». Et il y a toute une partie de la vie française qui est marquée par le peu de réalité. Mais ça va du petit au grand. Alors ça va du JO avec ses trucs absolument invraisemblables, jusqu'à ce qu'on voit réforme après réforme. Ça m'a quand même fasciné, mais il y a une chose par jour me fascine. Par exemple, l'usage d'une monstrueuse presse de 300 kilos pour sceller le texte inscrivant l'IVG dans la Constitution. Le vrai sujet n'est pas que l'IVG soit dans la Constitution, c'est que les femmes ne puissent pas techniquement avoir recours à l'IVG, vu que 7% des obstétriciens en pratique et que la France est un désert médical. C'est le seul vrai sujet, la réalité dont parle
c'est
Breton.
C'est symbolique de l'inscrire dans l'IVG, dans la Constitution.
Alors, bien sûr, c'est
et
ça.
Qu'est-ce qui vous fait marrer alors du coup? Qu'est-ce qui vous fascine dans le...
La presse, c'est le ministre, seul chez lui, avec une presse de 300 kilos, se met à mettre des sauts sur un texte qui ne règle pas un problème concret. Voilà. Ça, c'est pour moi, c'est ce qui me donne envie de relier 200 années d'exemplaires du journal officiel et de le mettre absolument partout chez moi.
Vous consacrez plusieurs développements assez assassins aux hommes politiques que vous avez bien connus, de tous les âges et de toutes les générations. Vous écrivez « La plupart des politiciens n'ont jamais travaillé, si l'on entend par travail autre chose que la présence active à la bourse des services rendus et acceptés ». Ils n'ont pas non plus tiré bénéfice d'une éducation particulière et s'ils ont jamais lu, ont très tôt cessé de savoir comment le faire. Leurs idées leur viennent de l'administration, de la nécessité de s'opposer à celle de leurs adversaires, de la société observée par le trou de la serrure ou celui de la statistique. Ainsi errent-ils de poste en poste, comme des clochards d'abri en abri.
Oui, c'est la bohème du monde moderne, mais cette sévérité... si vous voulez, en fait... Comment dire, elle a une origine un peu personnelle. Au début, par erreur évidemment, mais j'ai passé les concours me permettant d'appartenir à ce monde-là.
Et puis comme Léna,
tout ça.
Et vous comme, avez tout fait. Donc
ouais, et comme au fur et à mesure, je me suis rendu compte que ça n'était pas ce qui me convenait, et que de là, j'ai décidé de m'en aller. Si vous voulez, ça m'a fait basculer dans une collectivité mystérieuse que vous connaissez sûrement, qui est la communauté des gouvernés. C'est-à-dire que désormais, depuis presque des dizaines d'années maintenant, je ne me sens pas du tout appartenir à ceux qui gouvernent. Évidemment, j'en suis parti, mais n'appartenant pas à ceux qui gouvernent, je me sens appartenir à la collectivité des gouvernés. Je me mets à leur place. Et je ne vais pas prendre la parole en leur nom ici, mais nous autres, les gouvernés, je crois qu'on en a par-dessus la tête d'être sermonnés par, disait Tocqueville, ces bergers qui ne sont pas de meilleurs animaux que nous et qui bien souvent sont de pires. Sermonnés, catéchisés, protégés, sommés d'applaudir. Avec d'ailleurs ce phénomène d'étrange courtisanerie qui fait que par exemple à chaque élection présidentielle, tout d'un coup, nous chargeons l'élu avec un grand E de tous nos rêves, quitte à être déçus ensuite. Et ensuite, l'élu et ses collaborateurs en profite chaque matin. Vous savez, on est en temps de carême. J'ai vu que vous receviez un évêque avant.
Ouais, on va vous poser la question sur la fin de vie, d'ailleurs.
Voilà, je voudrais vous proposer la création d'un carême républicain. Où pendant 40 jours, on interdirait au président, au premier ministre, au ministre de nous tympaniser avec un récit, comme ils disent, avec une idée, avec une mesure technocratique nouvelle, avec un référendum, avec une cérémonie de panthéonisation. Le carême républicain serait un rêve.
Il y a trop de panthéonisation.
Trop.
Ah ben, moi j'ai un vrai problème avec la panthéonisation, c'est-à-dire que je pense qu'il faudrait, je suis un adepte de la dépanthéonisation, je pense qu'il faudrait les en faire sortir, les malheureux. Prenez Manouchian, le brave garçon. et je le dis avec toute l'émotion possible. Prenez Jean Moulin. Prenez Jean Moulin qui aimait les femmes, les Amilcar, les Citroën C9, à la conduite héroïque en 40 et ensuite, qui aimait aller manger des huîtres au dôme et qu'on a figé dans une espèce de d'idole de plâtre caressée par les lumières modernes, avec les chansons des enfants des écoles, les en faire sortir, leur rendre leur vérité humaine. C'est ça un exemple pour le citoyen.
Mais c'est beau le symbolisme républicain, c'était beau les la cérémonie de Manouchian.
Ah bah j'ai...
Non, vous êtes passé à côté.
Oui, parce que si vous voulez, bon, d'abord je suis passé à côté pour des tas de raisons. Je vous parlais de l'imposture, si vous voulez. Bien sûr, c'est beau, et puis une part de moi vibre. Alors une part de moi vibre davantage.
Une part de vous vibre qu'un étranger pour la première fois.
Et voilà. Ça vibre. Et puis l'autre chose qui vibre aussi, mais bon, enfin, elle vibre davantage, je dois dire, à la figure monolithique et immobile du général comme un bloc chu d'un désastre obscur le jour de la panthéonisation de Jean Moulin, la simplicité. Quand vous parlez du symbole, je trouve que le symbole serait plus fort si les cérémonies étaient plus simples. Mais c'est un autre débat. Non, dans Manouchian, ce qui m'a frappé, c'est que j'ai eu du mal quand même à voir la même semaine faire voter avec l'extrême droite la loi sur l'immigration qui en réalité réduit l'étranger à être à la fois un risque, une menace et un objet de doute, pour immédiatement après, dans les flonflons portés par les légionnaires de la 13, voir Manouchian porté au Panthéon. Oui, j'ai du mal à penser deux choses à la fois.
On le voit dans ce livre, François Sureau, vous aimez plus la géographie que l'histoire, à laquelle, dites-vous, vous n'avez jamais accordé beaucoup de crédit. Mais vous avez de la tendresse pour les historiens. Pourtant, l'histoire en train de se faire, vous en avez été témoin, à Sarajevo par exemple, je vous cite, « Dans les villages à demi détruits, les blessés montraient des visages d'anciens enfants. Ils avaient le regard de ceux qui sont passés de l'autre côté du miroir, où plus rien n'est pareil. » Témoin aussi, à Budapest, quand tombe le mur de Berlin. Le retour de la guerre sur le continent européen est la nouvelle donne fondamentale aujourd'hui, vous le savez. Emmanuel Macron, à ses derniers jours, déclarait qu'il n'excluait pas l'envoi de troupes au sol dans cette guerre, appelant ses alliés à se réveiller, au risque sinon d'être des lâches. Comment avez-vous reçu ces déclarations ?
Je ne les ai pas vraiment reçus, parce que je crois que est en jeu là quelque chose que je ne connais pas profondément, c'est-à-dire le jeu diplomatique complexe où un président qui a fait ce qu'il croyait devoir faire dans ce conflit essaye d'indiquer à Poutine que ça ne se passera pas comme ça jusqu'au bout. Alors les moyens qu'il trouve de le faire, franchement, et qui j'imagine pour moitié ont trait à des conversations qui doivent se dérouler sans que vous ni moi n'en sachions rien, ça m'est très difficile d'en parler.
Mais l'armée, vous la connaissez, l'armée. Vous
oui,
avez,
mais alors, je
vous
l'ai
avez
connu,
été militaire.
Mais je l'ai connu au cul du camion, c'est-à-dire que et pour autre chose que la géopolitique, c'est-à-dire pour, je crois que j'y suis venu y chercher, en dehors du goût de l'histoire se faisant sur un théâtre particulier, mais un sentiment de l'égalité des hommes et un sentiment de la fraternité, qui est quelque chose qui m'avait toujours plu, qui m'avait sorti de mon milieu et à quoi je suis resté extrêmement attaché. Et c'était sans rapport avec les motifs des conflits. Par exemple, j'ai été en Afrique, où nous menons depuis 20 ans une politique détestable, où la moitié de mes camarades pensaient que nous menions une politique détestable. Ça ne nous empêchait pas de faire ce que nous avions à faire. J'ai été en Afghanistan, qui est un pays que j'ai profondément aimé, et d'où nous sommes partis dans des conditions d'une indignité épouvantable.
Et aujourd'hui, le fait que l'armée française, par exemple, vous parlez de l'Afrique, que l'armée française ait dû partir quasiment de l'Afrique.
C'est d'une très grande tristesse, mais quand nous étions sur place, nous n'y pensions pas. Vous savez, c'est l'haïr, phrase que j'aime beaucoup. J'ai fait tout ce qu'un soldat a l'habitude de faire et pour le reste, j'ai fait ce que j'ai pu. Voilà. C'est ce sentiment-là qui me plaît dans les interventions.
Une question sur l'application de France Inter qui vous est posée par Sylvie. Se réfugier dans la littérature d'autres siècles, c'est trop facile pour fuir le monde actuel. Vous ne vous confrontez pas aux grands bouleversements de l'actualité. Elle cite la guerre en Ukraine, les horreurs de Gaza. Comment recevez-vous cette critique, François Sureau ?
Je la comprends, bien sûr. Je la trouve étonnamment superficielle, si je puis me permettre. Pourquoi ? Parce que, d'abord, il n'y a pas de grandes œuvres du passé, de grandes œuvres du présent, il n'y a que des grandes œuvres. Certes, je ne me suis pas confronté à l'Ukraine ou à Gaza de manière publique, au moins. Mais je crois que j'aurais pas... Je crois que je n'aurais pas écrit ce que j'ai écrit sur les libertés publiques, sur les libertés politiques, sur le droit des détenus, si je n'avais pas lu Victor Hugo, par exemple. Hein, je l'aurais pas appris en lisant tel ou tel romancier contemporain qui traite de questions biographiques et intimes. C'est Hugo qui m'a formé. Et sous ce rapport, je ne le regrette pas. J'en parle beaucoup.
Donc ce n'est pas qu'un refuge, la littérature.
Ça n'est en rien un refuge. Enfin, la littérature est, pour moi,
une stimulation.
Mais c'est une stimulation. J'étais pas absolument fait pour prendre des positions publiques sur toutes sortes de questions.
Et vous l'avez fait.
Et je l'ai fait. Et je l'ai fait pourquoi ? Parce que Hugo me les a soufflés à l'oreille. Vous savez, je fais partie des gens qui peuvent encore verser une larme en écoutant deux choses. Je parle longuement de l'exil de Hugo à Guernsey dans mon livre. Je verse une larme en lisant ces deux choses à la fois. Honnêtement, et s'il n'en reste qu'un, si quelqu'un a cédé qu'on aurait cru plus ferme, et puis la fin, le vers de la fin, et s'il n'en reste qu'un, je serai celui-là, mais ce vers me tire encore des larmes quand je le récite. Et de l'autre côté, c'est l'homme qui a écrit la plus belle déclaration d'amour de langue française dans les Burgraves. Regina, dis au prêtre qu'il n'aime pas son Dieu. Dis au Toscan sans maître qu'il n'aime pas sa ville. Au marin sur la mer qu'il n'aime pas l'aurore après la nuit d'hiver. Va, trouver sur son banc le forçat là de vivre, dis-lui qu'il n'aime pas la main qui le délivre, mais ne me dis jamais que je n'aime pas. C'est ça Hugo, c'est les deux ensemble, et c'est cet influx amoureux qui détermine sa position politique. Non, la littérature est tout sauf un refuge.
Emmanuel Macron s'est expliqué hier dans une interview à Libération et à La Croix sur la fin de vie. Un projet de loi sera présenté en Conseil des ministres fin avril qui ouvrira la possibilité à certains malades de demander une aide à mourir. C'est l'expression sous certaines conditions très strictes. Comment accueillez-vous cette volonté de légiférer sur la fin de vie? Et vous, l'adepte, le défenseur de la liberté, voyez-vous un progrès dans le fait qu'on ouvre une telle possibilité d'aider à mourir à certains malades en extrême souffrance?
C'est une question extrêmement difficile. Elle est extrêmement douloureuse. Elle est extrêmement douloureuse pour tous ceux qui, dont vous faites partie, dont je fais partie, dont énormément d'auditeurs font partie, ont connu des circonstances de ce type. Et il faut le dire, parce que c'est vraiment pas un sujet sur lequel on peut se jeter des concepts et des arguments à la tête. En fait, cette déclaration m'a rendu prodigieusement inquiet. Je pense en réalité qu'il faut se tenir à quelques principes simples si on ne veut pas, tôt ou tard, basculer dans des choses extrêmement fâcheuses. Et ce principe de base cumule le « tu ne tueras point » avec le fait que l'État ne peut être mêlé en aucune manière, fût-ce par la production d'un dispositif, à la mort d'une personne. C'était la raison qui faisait que Badinter, par exemple, était également opposé à la peine de mort et à ce qu'on appelle aujourd'hui le suicide assisté.
Vous pensez qu'Emmanuel Macron a attendu la mort de Robert Badinter ?
Cette pensée m'a traversé l'esprit et j'avoue que j'ai ressenti une certaine tristesse là aussi à voir en fait ce qui était chez lui une conviction fondamentale immédiatement balayée quelques semaines après qu'on lui ait fait cette cérémonie dans la cour de la Place Vendôme, si vous voulez. Ça fait partie des choses qui me laissent littéralement interdit, mais ça n'était pas le principal combat de sa vie.
Mais ceux qui disent que c'est une souffrance de mourir, qu'on meurt de manière indigne, que parfois il faut accélérer les choses, c'est l'État qui fait des lois, François Sureau, vous le savez. Oui. On ne va pas laisser ça à la responsabilité des médecins. La loi Leonetti, ça a été une loi.
Voilà, je n'engage que moi, hein, j'ai pas vocation de prophète sur ces sujets. La vocation d'un principe, c'est qu'on ne peut pas exciper de la difficulté des circonstances pratiques, des circonstances de fait, pour s'écarter du principe. Bien sûr que c'est difficile. Comme on faisait avant, le camarade, le soldat blessé sur le champ de bataille, qui a un camarade agonisant, qu'est-ce qu'il fait ? Il l'achève. Le médecin, et je viens d'une famille de médecins, le médecin qui a affaire à des souffrances de ce type, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait le nécessaire. L'ami, le fils.
Pas toujours.
Qu'est-ce qu'il fait ? Pas toujours, bien sûr. Mais c'est ça un principe. Il le fait, et il en prend la responsabilité. On ne peut pas, à mes yeux du moins, on ne peut pas s'exonérer de ce principe fondamental sans risquer de basculer dans un monde où, finalement, le principe ayant été écarté une fois, il le sera ensuite pour d'autres motifs. Ma vision n'est pas radicale, vous voyez ce que je veux dire ? Je voulais simplement manifester ma très grande inquiétude.
On l'entend.
Vous avez cette phrase dans ce livre, et ce sera notre dernière question. Il n'y a pas de mot que j'aimerais davantage pouvoir décrasser que le mot de consolation. Pourquoi ?
Ah, la consolation, c'est la consolation des affligés de Boès, c'est quelque chose, la consolation, c'est ce qui... par exemple, la vie dans les monastères, dont je parle à la fin de
mon
livre...
Mais c'est pour ça, vous faites la tournée des monastères,
vous allez y finir.
De la Grande Chartreuse, et on se demandait avec Nicolas si au fond, ce que vous annonciez en nous disant « je m'en vais, s'en aller », c'était à un moment un vœu de silence dans les monastères.
Vous n'en serez pas prévenu, parce que quand on va à la Chartreuse, en fait, qui est la forme de vie, de cette manière la plus parfaite dans ce registre, on ne peut même pas écrire de correspondance. La consolation, c'est la consolation de ces endroits où, en réalité, le départ et l'arrivée se mélangent au même point, où il n'est plus nécessaire de s'en aller, puisque précisément, on est déjà établi dans l'attente de ce qui va advenir. Et ça, c'est ce qui correspond peut-être pour moi le plus au sentiment de l'enfance, au sentiment profond de l'enfance, pas de l'enfance nostalgique, pas de l'enfance sentimentale, mais de cette enfance où nous coïncidions absolument avec nous-mêmes.
Merci François Sureau.
C'est ça que vous racontez dans le livre, le retour à l'enfance et aux origines, entre autres, parce qu'il y a beaucoup de choses. Merci.
S'en aller chez Gallimard en librairie ce jeudi. Merci encore infiniment.